Alors, grand A, on finira par ça. Les évangiles apocryphes et les actes d'apôtres. Alors, ce sont les écrits qui ressemblent le plus aux écrits canoniques. On va voir d'abord, petit A, les évangiles apocryphes. Alors, qu'est-ce qu'un évangile?
Bonne nouvelle.
C'est une bonne nouvelle. Donc des petites lettres qui sautillent, comme dans la station de métro d'à côté. Non, en fait, c'est pas tout à fait ça. Alors, ça veut dire exactement bonne nouvelle, hein, bonne nouvelle. Donc, je pense que le gars qui a fait le panneau dans le métro connaissait un peu de grec, hein. Mais précisément. La définition qu'on peut en donner, que donnent des patrologues, et je pense notamment à Drobner, Hubertus Drobner, qui est l'auteur on pourrait dire, du manuel de patrologie le plus facile, enfin, le plus courant actuellement, traduit en français même, dit ceci: ce sont les paroles et les récits d'abord transmis oralement, concernant la vie, les actes et l'enseignement de Jésus de Nazareth, rassemblés par un rédacteur dans le cadre d'une réflexion théologique et communautaire pour assurer leur transmission authentique en vue de fortifier et diffuser la foi chrétienne. Définition.
Impeccable.
On pourrait demander à Hugues de retraduire ça en allemand. En une seule phrase.
Moi, je pense en un seul substantif.
Ben là, c'est d'ailleurs une seule phrase. En un seul substantif. Donc, les paroles et récits, d'abord transmis oralement, concernant la vie, les actes et l'enseignement de Jésus de Nazareth, rassemblés par un rédacteur dans le cadre d'une réflexion théologique et communautaire, pour assurer leur transmission authentique en vue de fortifier et diffuser la foi chrétienne. C'est vraiment une définition très précise et très juste. Alors, ces évangiles apocryphes, donc inauthentiques, hein, ça veut dire ça, ce sont des textes, on pourrait dire maintenant extra-bibliques, hein, puisqu'ils sont para-apostoliques, extra-bibliques sur Jésus. Donc, des textes qui parlent de Jésus comme si il l'avait connu. Mais dont on a finalement pensé que c'était des constructions fictives. Alors qu'ils peuvent mêler le vrai au faux. C'est toujours aussi la difficulté, hein, dans le discernement. Et ce qui explique que certains ont traîné dans des canons locaux pendant longtemps. Et que ça continue à fasciner nos contemporains. Parce que nos contemporains, quand on leur dit c'est ça qu'il faut lire, ils ne lisent pas. Et quand on leur dit ça vaut rien, ils se précipitent dessus.
Exactement.
C'est
ça
la curiosité.
Ils disent ils doivent dire, ça doit être croustillant.
C'est exactement comme Ève au paradis. On lui dit elle peut prendre tous les fruits, sauf celui-là, ben c'est celui-là qui l'intéresse. Alors, les évangiles apocryphes, c'est comme la pomme du paradis. Oui, un peu de sauce. Ou Maria Valtorta, etc. C'est un peu tous les... Alors ça, c'est les apocryphes récents.
Mais c'est... Non, il n'y a toujours pas eu de...
Oui, il y a des positions du magistère qui sont quand même...
Maria Valtorta, elle est remise en question.
Ou elle est quand même remise en question
par le... En privé, elle était bien, non?
Non. Pas pour Maria Valtorta.
Ah oui. Cambridge est le vénérable.
Oui,
Emmerich, oui. Elle a été même plus que ça, elle a été béatifiée.
Béatifiée.
Oui.
Parce que
Maria Valtorta, elle a été un peu condamnée, oui, c'est ça. Je crois que Pie XII n'était pas très pour.
Elle écrivait tout le
Alors, donc revenons à l'Antiquité, puisque vous vous souvenez quand même que la patrologie, c'est l'étude des auteurs de l'Antiquité. Donc on va refaire, on va retourner au 1er siècle. Alors, on peut distinguer plusieurs types d'évangiles apocryphes. Il y a d'abord ceux qui suivent la tradition synoptique, qui puisent aux mêmes sources. La tradition synoptique, c'est Matthieu, Marc et Luc. Alors, par exemple, il y a l'évangile de Pierre, l'évangile selon les Hébreux, qu'on appelle aussi l'évangile des Nazaréens, ou l'évangile des Ébionites, qui est une secte judéo-chrétienne. Donc ça, si vous voulez, globalement, ils vont être fabriqués parfois à partir de sources communes à Matthieu, Luc et Marc. Alors, il y a une autre catégorie qui est franchement hétérodoxe et qui entend légitimer des doctrines qui s'écartent de la règle de foi, de la Regula Fidei, de la Grande Église, par le procédé de la pseudo-épigraphie. Pseudo-épigraphie, c'est le procédé qui consiste à utiliser le nom de quelqu'un qui fait autorité pour faire passer ses idées.
Marchandise. Oui. En lui faisant dire des choses qu'il n'a pas dit ou quoi.
Oui, c'est ça, carrément. Vous prenez le nom d'un apôtre et puis vous faites votre cuisine. Mais alors évidemment, les gens qui le lisent disent « Ah ben, si c'est un tel qui l'a écrit, ça doit être vrai ». Renommée de Denis l'Aréopagite, en fait, ça tient en fait qu'on l'a identifié à ce disciple de Paul à Athènes. Et on se dit, il a connu Saint Paul, donc c'était très intéressant. En fait, c'était un moine du VIe siècle syrien. Je suis sûr que si on l'avait pas pris pour Denis de l'Aréopage, son texte aurait peut-être été oublié, complètement oublié. Et alors là, c'est pas de sa faute, il s'appelait Denis aussi. Bon. Alors, après, les auteurs de l'époque avaient toujours tendance, dès qu'ils voient un nom, ils l'identifient avec un nom déjà connu. Alors que Denis, c'est vraiment un nom extrêmement répandu dans le monde hellénique. Voilà. Donc cette deuxième catégorie d'évangiles apocryphes, en fait, va essayer de diffuser des doctrines qui sont gnostiques. Alors, on a découvert toute une bibliothèque en 1945. De textes gnostiques dans un endroit qui s'appelle Nag Hammadi, en Égypte.
C'est dans les enfers, c'est ça?
Et comment?
C'est dans les enfers qu'ils trouvaient ça. C'est l'enfer, c'est ce qu'on appelait les vases, on mettait tous les hérésies, tous les textes hérétiques. Oui.
Alors, notamment, c'était ces écrits qui ont été justement bien conservés dans ces pays secs. Alors, parmi les différents ouvrages, par exemple, vous avez un évangile de saint Thomas. Donc, pratique, Thomas, apôtre, donc. Un évangile de Barthélemy. D'autres textes, évidemment.
Il y a un de Judas aussi.
Oui. Il y a la Pistis Sophia, la foi de... Pistis, c'est la foi, Sophia, c'est la sagesse.
On ne les a pas appelés les manuscrits, non ?
Comment ?
On ne les a pas appelés les manuscrits. En 45, vous dites ?
45,
c'est
oui.
Ce pas les manuscrits, là.
Ah non, Qumran, c'est encore autre chose. C'est un autre... C'est plus tard, dans les années 50, Qumran. Et Qumran, c'est plutôt les écrits des Esséniens qui nous permettent aussi de trouver des... Voilà.
Et Qumran, pour le coup, c'est pas de l'hérésie.
Non. Mais c'était...
C'est vécu au Testament.
Oui, c'est ça. Et on a trouvé, par exemple, un grand texte de Isaïe, enfin, d'ailleurs, qui se trouve au musée des Écritures, musée biblique de Jérusalem, un grand rouleau. un rouleau. Parce que, oui, c'est amusant, parce que finalement, dans l'Ancien Testament, c'était des rouleaux. D'ailleurs, vous avez ça dans les synagogues, vous avez toujours la Torah en rouleau. Et le christianisme va passer du rouleau au codex, c'est-à-dire des pages reliées. Alors, je sais qu'il y a des auteurs qui ont réfléchi là-dessus.
C'est plus pratique, c'est tout.
Oui, je pense que c'était plus pratique.
Pas chercher midi à 14h.
Mais alors après, il y en a qui cherchent midi à 14h, vraiment. Ils trouvent des raisons profondes. Hein. C'est comme l'allégorie. Hein. Vous allez voir, c'est exactement comme l'allégorie dans l'Écriture sainte. On va chercher des raisons là où il n'y a parfois que juste des causes purement historiques. Et oui, voilà, bon, Qumran, c'est autre chose. Alors, d'ailleurs, je vous parlais tout à l'heure de la fixation du canon juif, mais c'est quand même intéressant de voir que les textes officiels du judaïsme ont été... Vous savez que c'est une langue consonantique. Donc, quand vous la vocalisez, parfois les mots changent. Voilà, les mots changent de sens. Et là, avec ces découvertes de Qumran, on a eu en fait des textes beaucoup plus anciens que les textes officiels du judaïsme moderne, qui le texte dit massorétique, qui est le texte qui fait autorité dans le monde juif. Les manuscrits les plus anciens datent du Xe siècle. Hein. Ça a été fait au milieu du Moyen Âge, vous voyez, à peu près.
Comment s'appelle cet endroit où vous disiez...
Nag Hammadi. Alors Nag, N-A-G, et puis Hammadi, Hammadi, H-A-2-M-A-D-I. Alors, troisième catégorie d'écrits apocryphes, d'évangiles apocryphes, puis on s'arrêtera là. Ce sont ceux qui cherchent à répondre à la soif de savoir de la piété populaire. Alors, ce sont les évangiles apocryphes de l'enfance de Jésus, par exemple. Alors, qu'est-ce qu'on va faire ? Les autres, là, je vous disais, véhiculaient des doctrines gnostiques sous le manteau des apôtres, par exemple, de gens qui faisaient autorité. Tandis que là, on va essayer plutôt de véhiculer des choses que l'Église officielle enseigne, mais en forçant le trait. Hein. Par exemple, on va souligner la divinité de l'enfant Jésus. Alors, il fait des petits oiseaux en argile, et il souffle dessus, puis il s'envole. Vous voyez, il est vraiment Dieu. Hein.
Voilà. C'était repris dans le Coran.
Oui,
oui aussi. Oui. Oui, tout à fait.
Ou alors... C'est pas prouvé qu'il était Dieu dans le Coran.
Sauf qu'ils ne verront pas ça. Hein. Mais ce qui veut dire qu'ils ne reprennent rien à ce qu'ils font. Alors, la virginité de Marie aussi, qui va être particulièrement mise en valeur. Alors, on va imaginer son mariage avec Saint Joseph, et puis ce qui s'est passé avant, et puis là, du coup, les grands-parents, et puis les tantes, les cousins, enfin bref, etc. Donc, vous allez avoir... Ça, c'est le proto-évangile de Jacques, par exemple, ou l'évangile arabe de l'enfance, ou l'évangile du pseudo-Matthieu, ou l'évangile de l'enfance de Thomas, etc.
Parce que Benoît XVI, là, quand il a fait son livre sur Jésus de Nazareth, enfin, il y a tout un énorme volume sur l'enfance.
Oui.
Il s'est inspiré de ça. Enfin, il a repris.
Alors, c'est pas, il n'est pas très très gros. C'est ça doit faire à peu près ça.
Ah non, c'est énorme, non ?
C'est ce qu'il a fait à la fin. Il a fait deux gros volumes, donc la vie publique et puis la passion, et après une introduction plus courte qui est les évangiles de l'enfance. Alors il les étudie à partir des évangiles canoniques, parce que l'enfance de Jésus, malgré tout, on en parle aussi dans les évangiles canoniques de Matthieu et de Luc.
Ça qui relie les apocryphes à la lumière des canoniques.
Voilà, exactement, ce qui doit être fait. Parce que... Alors c'est là qu'on nous parle donc de Saint Joseph, des parents de Marie, de Joachim et Anne, etc. Ou si vous allez par exemple à Padoue, là, dans la chapelle Scroveni, vous avez des tas de fresques qui nous parlent de toutes ces légendes sur même le mariage de Anne et Joachim, et qui était, etc. Alors c'est justement donc ces ouvrages-là ont une grande importance dans la piété chrétienne. Ils vont donner le nom, par exemple, des parents de Marie. C'est eux qui parlent du bœuf et de l'âne. C'est eux qui parlent. Ils parlent aussi des rois mages. Et puis, évidemment, quand il y a quelque chose de très elliptique ou concis dans les évangiles canoniques, bah, finalement, les fidèles, ils seront un petit peu en état de manque. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Bah, on va broder, on va rajouter plein de trucs pour que les gens puissent satisfaire leur curiosité. Un peu comme d'ailleurs les apocalypses qui permettaient de satisfaire la curiosité des gens qui voulaient savoir ce qui allait se passer. Alors, il y a assez peu de choses autour de la passion. Pourquoi? Parce qu'elle est très documentée dans les évangiles, canoniques. Regardez, qu'est-ce que c'est qu'un évangile? En gros, comme disait un auteur, un exégète allemand du 20e siècle, début 20e siècle, il disait, c'est la passion avec un prologue. Alors, un peu exagéré, mais la passion avec un prologue. Et c'est vrai que quand on regarde, par exemple, nos évangiles, on voit qu'il y a des chapitres entiers sur la passion. Donc du coup, les évangiles apocryphes auront moins de trucs à dire, à inventer. Mais il y en a quand même. Hein. Il y a les actes de Pilate, par exemple.
Si, mais il y en a un, c'est dans celui de Judas, où il dit ce qui a aussi été repris dans le Coran, où c'est soi-disant un sosie qui a été crucifié.
Oui, aussi.
Un sosie crucifié.
Il y a l'évangile de Nicomède, qui nous parle de la descente aux enfers. Vous savez, Nicomède, c'est celui qui va recueillir le corps de Christ. De Gamaliel, alors évidemment, tous les gens qui apparaissent dans la passion, on va essayer de retrouver un texte. Voilà. Alors parfois, il y a aussi les dialogues de Jésus après la résurrection, un peu comme dans le film, là, vous savez, qui est passé sorti l'an dernier.
Oui, un peu bizarre.
Voilà. Et puis... Et puis enfin, et je termine par là, le quatrième type d'évangile, c'est ce qu'on appelle des fragments d'évangile ou des agraphas. Les agraphas, c'est les choses pas écrites, qui sont la transcription parfois tardive d'éléments de la tradition orale et qui peuvent remonter effectivement aux paroles mêmes de Jésus. On a parfois dans les premiers écrits chrétiens reconnus comme tels, eh bien, parfois des paroles de Jésus qui ont été retenues et qui sont peut-être tirées justement de ces aides-mémoires ou de ces, instruments qu'utilisaient les apôtres pour faire pour enseigner et qui ont été ensuite plus tard remis en ordre par les évangélistes canoniques. Vous vous souvenez quand Saint Jean dit que s'il fallait mettre par écrit tout ce que Jésus a dit, la terre entière n'y suffirait pas. Bon, il est un peu marseillais. Hein. Bon. Mais néanmoins, c'est certain qu'il y a des tas de choses que Jésus a dites et faites qui n'ont pas été consignées dans les évangiles canoniques.
Alors, il n'y a pas les logias
les logias, c'était les paroles de Jésus. Qui étaient des sortes de verbatim, hein, certainement, qui servaient de base à l'enseignement des apôtres. Là-dedans, certes, Matthieu, Marc, Luc, même Jean, ont puisé là-dedans, mais ils n'ont pas tout épuisé, ils n'ont pas tout pris, ils n'en ont pris qu'une partie. Donc il y a des choses
qui sont vraies, qui sont encore
qui ont été perdues, et parfois qu'on voit ressurgir dans la première littérature chrétienne. Par exemple, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. C'est une parole de je ne sais plus qui qu'on trouve dans les premiers auteurs chrétiens et qui est attribuée à Jésus et qui peut être très très comment dire très authentique.
Jésus compatible.
Ouais, Jésus compatible, oui, c'est ça. Voilà. Bon, et ben écoutez, on va s'arrêter là et puis après on va voir. On verra une autre catégorie d'écrits qui s'appelle les actes d'apôtres.